Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 avril 2025, nous sommes sur les ondes et je vous souhaite la bienvenue dans cette 52e émission d'Ethnovibro, l'effet social total. Au programme aujourd'hui, nous parlerons bien sûr d'anthropologie, plus particulièrement des notions d'habitabilité et d'attachement. Nous étions il y a quelques jours sur le Larzac, où j'ai eu le plaisir de rencontrer les anthropologues Philippe Descola, Nastassia Martin et Katia Fersing. C'est en exclusivité sur Radio Escapade. C'est maintenant. Ethno Vibro. L'effet social total. Nous étions à la fin du mois de mars, nombreuses et nombreux au rendez-vous des trois soirées de l'événement intitulé « À la lisière des mondes », organisé par le MUMIG, le musée de Millau, des Grands Causses et de la Grosse Zinc, dirigé par Katia Fersing, et en partenariat avec la chaire « Habitabilité de la Terre et transition juste » de la Sorbonne, dont la direction scientifique est assurée par Nastassia Martin. Le bistrot des ethnologues était également de la partie, notamment pour les deux premières soirées qui avaient lieu à Millau, avec, dans un premier temps, la projection du film « Vivant parmi les vivants » de Sylvère Petit, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir en salle, et dans un deuxième temps, avec une conférence à trois voix, dans laquelle Nastassia Martin invitait la philosophe Vinciane Després et l'anthropologue Philippe Descola à partager de nouveaux éclairages issus de leur terrain de recherche, éclairages recueillis auprès de collectifs d'ici et d'ailleurs, ou observés à partir des adaptations des autres espèces vivantes face aux enjeux écologiques et climatiques actuels. C'est le troisième jour que nous étions accueillis au Mas Razal, autre partenaire important de l'événement. C'est un lieu de résidence, de création artistique et de pensée collective que Justine Wojtyniak nous présentera aussi dans cette émission. Soirée donc où Nastassia Martin et Katia Fersing ont invité Philippe Descola à participer à une discussion collective et publique entre habitants du Larzac et des alentours, chercheurs, chercheuses, éleveurs, éleveuses, paysans, artistes, à identifier et formuler leurs attachements à leur lieu de vie, à leur mode de vie, avec un dispositif expérimental de collectage public. Ainsi, nous nous sommes questionnés tous ensemble, à quoi tenons-nous vraiment? Qu'est-ce qui nous fait tenir? Comment envisageons-nous d'habiter nos lieux et nos vies? Avant de partir à la rencontre de Philippe Descola, écoutons Katia Fersing, directrice du MUMIG, nous présenter cet événement et le projet dans sa globalité.
Cet événement, on l'a intitulé « À la lisière des mondes » et on l'a pensé collectivement dans le cadre de réflexions croisées. Alors moi, je vais parler depuis le point de vue du musée. Il se trouve que c'est un musée qui raconte les façons dont les populations ont habité les Grands Causses depuis fort longtemps. Et donc, il présente des collections assez diverses, depuis l'archéologie jusqu'à des collections plus contemporaines liées à la mégisserie, à la ganterie, mais aussi à la cantatrice Emma Calvé, mais aussi à de la paléontologie. Enfin, bon, il y a quand même une diversité de collections assez intéressantes et qui racontent cette longue histoire du territoire et des populations qui se sont succédées sur ce territoire et qui en ont fait un lieu habitable. On réfléchit sur ces questions d'habiter le territoire à partir de ces objets. On essaye de créer des ponts entre les temporalités, entre ces objets, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui structure ces façons d'habiter sur le territoire depuis fort longtemps. Et évidemment, on le fait aussi en se demandant dans quelle mesure on habitera demain dans ces lieux. Pour réfléchir sur ces questions d'habitabilité qui traversent le temps, on a construit des passerelles avec d'autres collectifs, avec d'autres regards, parce qu'on considère qu'il y a un besoin de penser ensemble des questions de fond sur nos façons de vivre et d'habiter un lieu. Et donc cette pluralité de regards, elle nous amène aujourd'hui à nous rassembler avec des partenaires donc, qui sont aussi des partenaires avec qui on chemine depuis longtemps maintenant. Donc par exemple le Bistrot des États ethnologue, qui invite avec nous des anthropologues à réfléchir sur les questions qu'on aborde depuis nos collections. Donc, par exemple, on a eu déjà l'occasion d'inviter Nastassia Martin il y a quelques années, puis ensuite Charles Stepanov autour des collections plutôt liées à l'élevage ovin sur le territoire, donc à l'agropastoralisme. Puis il y a aussi très récemment la mise en place d'un partenariat avec la chaire Habitabilité de la Sorbonne que Nastassia Martin occupe depuis 2 ans maintenant. Donc on s'est dit que c'était intéressant de croiser nos regards sur ces questions. On a eu envie de composer un événement donc avec le Bistrot des ethnologues, avec la chaire Habitabilité, mais aussi avec un lieu qui est un plateau artistique et culturel et qui se situe en plein cœur du Larzac, le Masrazal. Donc ce soir, on est dans le 3e volet de cet événement sous la forme d'une expérimentation méthodologique dans l'idée de faire émerger collectivement des attachements. C'est le terme qui a été employé hier au cours de la conférence, mais c'est vrai que c'est assez juste comme terme, des attachements à ce territoire, les Grands Causses, et essayer de voir dans quelle mesure on peut arriver à qualifier ces attachements. Donc on va expérimenter un dispositif qui permettra de les mettre en lumière. Et puis, à terme, l'idée c'est de reconduire sous forme d'atelier ouvert au plus grand nombre aux habitants des Causses, où on va continuer à travailler ces questions-là. À l'horizon de ce processus collectif, il y a l'organisation d'un colloque, donc la préparation aussi du contenu de ce colloque sur les questions d'habitabilité et au cours duquel on rendra compte de tout ce travail de réflexion mené collectivement ici sur les Grands Causses et qui sera mis en perspective avec des réflexions ou des tentatives de réponse apportées aussi par d'autres collectifs qui se situent à d'autres endroits sur la planète. Donc c'est un projet au long cours qui s'ancre sur les réalités d'un musée, voilà, de territoire, comme je le disais, mais qui en même temps essaye de favoriser la création d'espaces de discussion, de dialogue, de croisement de regards. C'est une tentative de reformulation d'un récit collectif aussi pour penser la façon dont on va habiter cet endroit demain.
Pendant que la forme expérimentale de mise en lumière de nos attachements était en train de se mettre en place aux côtés de Nastassia Martin, Katia Fersing et Justine Wojtyniak, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'anthropologue Philippe Descola et de réaliser avec lui cette interview exclusive pour Ethnovibro, l'effet social total. J'en ai profité pour lui poser des questions sur son parcours d'anthropologue et évidemment sur les notions d'habitabilité et d'attachement. Philippe nous a répondu en citant les Achuars, en parlant des zadistes, mais aussi en évoquant Lévi-Strauss et le potentiel révolutionnaire de l'anthropologie. Hier, vous avez parlé dans cette conférence d'habitabilité. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce terme pour nos auditeuristes ?
Alors, je suis revenu sur le terme parce que c'est l'intitulé de la chaire de Nastassia Martin. Et j'ai fait remarquer dans la conférence que la première fois que je suis tombé sur ce terme d'habitabilité, c'était dans une lettre que le grand fondateur de la géographie, premier grand cosmographe de l'ère moderne, à savoir Alexandre de Humboldt, écrivait à son ami Schiller, dans lequel il définissait sa tâche comme l'étude de l'habitabilité progressive de la Terre. Par là, il entendait, dans une perspective géographique, comment est-ce que l'homme s'était peu à peu répandu sous toutes les latitudes et avait aménagé les milieux de façon à les plier à ses besoins. Et je me disais que c'était à la fin du XVIIIe siècle, donc un peu plus de 2 siècles plus tard, la question qui se pose n'est pas de l'habitabilité progressive de la Terre, mais du défaut d'habitabilité progressive de la Terre, c'est-à-dire comment avons-nous rendu la Terre de moins en moins habitable, justement en essayant de la rendre habitable d'une certaine façon, c'est-à-dire en pliant les milieux à nos besoins, en extrayant des ressources de façon systématique et inconsidérée. Quand je dis nous, c'est les modernes, c'est-à-dire c'est les Européens et tous ceux qui ont été influencés par l'idéologie de la modernité, mais pas l'ensemble des peuples autour de la planète, puisque en tant qu'anthropologue, j'ai travaillé, vécu chez des Amérindiens en Amazonie, et que je suis assez familier avec la façon dont des populations autochtones établissent des relations avec les autres qu'humains, et donc je sais qu'elles n'aboutissent pas à la dévastation de la planète que nous pouvons observer à l'heure actuelle, et donc... La question de savoir c'est qui est responsable de cette perte d'habitabilité, non seulement pour les humains, mais aussi, et ça c'est une perspective que Humboldt ne prenait pas en considération, pour les autres qu'humains. C'est-à-dire que non seulement nous avons rendu l'habitabilité, nous les modernes, de la Terre de plus en plus difficile, notamment avec le changement climatique et la pollution de l'eau, des airs et des sols, mais nous avons rendu la planète de moins en moins habitable pour de très nombreuses espèces qui sont en train de disparaître ou qui voient leur milieu de vie drastiquement transformé et réduit.
À quel moment et de quelle façon ce défaut d'habitabilité vous est apparu dans votre terrain, dans vos travaux ?
Il m'est apparu par contraste, puisque, je le disais tout à l'heure, j'ai... consacré les premières années de ma carrière de chercheur, en fait j'étais un doctorant en Haute-Amazonie, parmi une population de l'Amazonie équatorienne qui s'appelle les Achuar, et j'étais parti pour étudier la façon dont ils socialisent la nature. C'était comme ça que j'avais formulé le problème que je me proposais d'étudier. Et en fait, je me suis aperçu que cette façon de le formuler ne rendait pas du tout compte de ce qui se passait, à savoir que les Achuar non seulement n'avaient pas été parachutés dans la nature comme une société comme ça, déjà toute formée dans une nature toute formée, puisque eux et d'autres populations amérindiennes en Amazonie avaient transformé au fil du temps profondément la forêt, sans que ce soit très visible à l'œil nu, du fait de leur façon culturelle, en modifiant la composition floristique de la forêt. Donc ce n'était pas une nature vierge, puisque la forêt amazonienne maintenant, par la multiplication des genres de travaux que nous avons menés dans ces années-là, nous les gens qui nous intéressions à l'ethno-écologie, disons, on sait maintenant que la forêt amazonienne est en partie anthropogénique, donc elle n'est pas une forêt vierge, c'est une forêt aménagée, transformée, profondément bouleversée par la présence humaine. Donc ça, c'était un aspect. Puis l'autre aspect, c'est le fait que la plupart des plantes, des animaux... étaient, pour les Achuar, vus comme des personnes avec une âme, capacité de communication qui se manifestait notamment lors des rêves, et que donc ce n'était pas une nature extérieure, mais un ensemble de partenaires sociaux avec lesquels ils interagissaient au quotidien, comme ils interagissaient avec des partenaires sociaux humains. Et donc de ce point de vue-là, le contraste avec notre propre façon de voir la séparation entre nature et société m'est apparu, m'a sauté aux yeux. Et en revenant du terrain, je me suis fixé comme objectif d'essayer de comprendre en quoi ces formes de continuité, mais aussi de discontinuité entre humains et non-humains, telles qu'elles avaient été inventoriées par les ethnographes et les historiens, pouvaient former système. Quelles étaient les différences qui les séparaient, etc. Et la première, évidemment, différence qui me sautait aux yeux, c'était la différence entre ce que j'avais observé en Amazonie, dont je me suis aperçu après qu'elle était, c'était une chose assez commune dans d'autres régions du monde, à savoir l'idée que la plupart des autres qu'humains ont une intériorité analogue à celle des humains qui permet de communiquer avec eux, etc. Et qu'en même temps, ils constituent autant de formes de vie avec des natures propres, puisqu'ils ont des conformations et des dispositions physiques qui leur permettent de se brancher à des parties du monde et d'actualiser les propriétés de ces parties du monde qui sont à chaque fois différentes, parce qu'ils ont des modes de locomotion, des modes d'alimentation et des milieux de vie d'ailleurs complètement différents. Et ça, c'était l'inverse absolu de ce que j'avais appris moi, non pas sous forme dogmatique, mais qui était la norme en Europe où j'avais été élevé, qui était de considérer au contraire que les humains étaient complètement exceptionnels du point de vue de leurs facultés cognitives et morales, et qu'ils se séparaient en cela des autres qu'humains, mais qu'ils avaient dispositions physiques qui les rattachaient au grand monde de l'univers physique, et que les lois de la physique, de la chimie et de la biologie permettaient de mettre en évidence. Donc on avait un système de continuité et de discontinuité dans chaque cas, mais les frontières ne passaient pas au même endroit. Chez les Atchouars et dans ce que j'ai appelé les populations animistes, la continuité passe par les âmes, par les intériorités, et la discontinuité passe par les corps, alors que dans le monde occidental, dans le monde moderne, la continuité passe par les corps et la discontinuité passe par les âmes.
Et en quoi ça a un impact sur le fait qu'on puisse habiter ou pas, quelque part ?
Cette façon de voir les choses qui ne m'était pas apparue de manière aussi systématique, parce qu'on ne voit les choses bien que par contraste, hein, c'est le principe de l'anthropologie, auparavant, m'a fait prendre conscience du caractère exceptionnel de notre propre façon de voir, nous les modernes, que j'ai appelé naturalisme, et qui m'est apparu au fil du temps comme une des conditions, au fond, du développement de l'exploitation de la terre par l'intermédiaire du capitalisme industriel, puisque ça supposait, d'une part, que les autres qu'humains étant des choses pouvaient constituer des ressources vis-à-vis desquelles on n'avait pas d'obligation, ce qui est très très rare, et même exceptionnel dans le reste du monde. On a toujours des obligations vis-à-vis des autres qu'humains, et si on manque à ces obligations, les conséquences peuvent être très graves. Or, c'est l'idée que cette exploitation effrénée de nature puisse coûter quelque chose aux humains n'est apparu que récemment avec la prise de conscience des effets du réchauffement climatique et des bouleversements précisément dans l'habitabilité de la Terre que le réchauffement climatique et la pollution que je mentionnais aussi tout à l'heure entraînent. Cette espèce de révolution anthropologique que j'ai appelée le naturalisme, qui est tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, qui s'est produite à partir du XVIIe siècle, a eu cette conséquence qu'elle a bouleversé les conditions d'habitabilité de la Terre, pas sur le champ, bien sûr, mais progressivement, avec l'idée que, au fond, on pouvait coupler l'émancipation, c'est l'héritage de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire un surcroît de liberté individuelle avec l'augmentation des richesses et l'augmentation du bien-être. Le problème, c'est qu'on se rend compte maintenant que ce couplage, qui a été le moteur, au fond, du développement du capitalisme et des sociétés libérales au cours des deux derniers siècles, n'est plus possible, puisque, précisément, on ne peut pas augmenter infiniment la consommation de ressources dans un monde fini. Et donc le naturalisme, au fond, bute sur cette contradiction, qui est d'avoir, en essayant de rendre la Terre de plus en plus habitable, amène pour les humains, l'a rendue de moins en moins habitable en détruisant les conditions de fonctionnement du système de la Terre, et dans une logique d'amélioration des conditions de vie des humains, qui ne peut pas être prolongée telle quelle, et qui surtout ne peut pas continuer à se produire dans le cadre du capitalisme industriel.
Philippe Descola, vous êtes anticapitaliste finalement, ou c'est l'anthropologie elle-même qui l'est ?
Je pense que c'est un constat tout simplement. Alors, par capitalisme, il faut désigner un mode de développement qui transforme tout en marchandise. Et donc, à partir du moment où une chose a une valeur marchande, ou un être, il est échangeable sur un marché, il reçoit une valeur monétaire. Et de ce point de vue-là, il est très très difficile qu'un tel système se réforme de lui-même, parce que tout est occasion de faire un profit. Et ces profits, il faut les considérer comme une augmentation de la richesse acquise individuellement, et donc de la quantité, non pas de bien-être, mais d'aménité personnelle que l'on peut acquérir. Donc il me semble qu'il est normal de lutter contre un système qui rend la planète de moins en moins habitable, et surtout parce que lorsqu'on est anthropologue, on a l'expérience et la connaissance de sociétés qui ont su faire autrement, et pour lesquelles, par exemple, il n'y a pas de... Ça a été mon cas, j'ai vécu dans une société où il n'y avait pas de production marchande, c'est-à-dire qu'on ne produisait pas pour un marché, mais pour sa propre consommation. Et lorsqu'il y avait des échanges, ces échanges étaient liés à la nécessité de renforcer des liens personnels entre les personnes qui échangeaient, la nature de ce qui était échangé étant relativement sans importance. Au fond, ce qui comptait, c'était l'acte même de l'échange et les liens sociaux qui étaient constitués ou fortifiés par ces actes d'échange. Et donc, l'expérience, au fond, que l'anthropologie a pu acquérir de systèmes sociaux dans lesquels il n'y a pas d'exploitation de l'homme par l'homme, dans lesquels il n'y a pas de mercantilisation généralisée, est aussi intéressante en ce sens qu'elle offre des matériaux qui sont autant de stimulation intellectuelle pour essayer d'envisager les transformations du système actuel. On ne peut pas transposer, bien sûr. Aucune situation historique n'est transposable terme à terme, et il est illusoire de penser que le mode de vie des Atchouars pourrait être transposé même dans le Larzac ou dans les Cévennes. Mais en revanche, il offre des stimulations intellectuelles pour envisager des formes moins destructrices d'habitation de la Terre, ce que des territoires et des collectifs alternatifs, comme les ZAD, en France par exemple, ont fort bien compris. C'est-à-dire qu'ils ont, sans chercher dans les manières de vivre des peuples autochtones un modèle, ils ont inventé des formes de vivre en commun fondées sur le refus de la propriété privée, sur le partage, sur un fonctionnement extrêmement démocratique des prises de décision collectives et sur des identifications profondes avec les autres cumains des territoires qu'ils habitent, qui tranchent profondément sur celles que le capitalisme industriel a pu promouvoir.
Dans ce contexte un peu d'urgence et aussi de résistance que vous décrivez, comment l'anthropologie a changé de statut dans l'histoire aussi politique, c'est-à-dire depuis le début de votre anthropologie, le début de votre parcours d'anthropologue, comment vous percevez le changement de statut de l'anthropologie dans la société, comment ce savoir prend place aujourd'hui aussi dans certaines luttes. Est-ce que vous pouvez constater ça et aussi une curiosité plus élargie que le milieu universitaire qu'avant ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez dans tous les rendez-vous où vous êtes invité et comme ici, par exemple, comme ce week-end, l'écoute qu'il y a de cette discipline qui est reliée peut-être aussi à ce contexte et à cette urgence.
Alors, je crois que c'est un constat que les anthropologues font depuis longtemps, je dirais presque depuis les origines de la discipline. Et pour prendre un exemple, Claude Lévi-Strauss, lorsqu'il était au Brésil, est revenu du Brésil, donc juste avant la guerre, en 1937, je crois, en France, pour quelques mois. Et il a fait une conférence à l'invitation de la CGT, d'un centre de recherche de la CGT, une conférence qu'il a intitulée « L'ethnologie, une science révolutionnaire ». Alors ça peut paraître un peu curieux, parce qu'on prête à Lévi-Strauss une position politique plutôt tiède, alors qu'à l'époque, il était encore un marxiste un peu hétérodoxe, d'ailleurs, et il avait été une des stars intellectuelles de la SFIO, du Parti Socialiste, avant de partir au Brésil. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience ethnographique dans des sociétés très différentes de la sienne permet de regarder de façon réflexive, de jeter un regard sur notre propre société et d'identifier immédiatement tous les tares et les travers. Et donc je pense que, par définition, le travail anthropologique permet ce genre de mise à distance et de réflexion critique qui n'a cessé de s'amplifier au cours des dernières décennies. Effectivement, je suis assez souvent sollicité pour, au fond, m'exprimer dans différents types de manifestations pour donner le point de vue de l'anthropologie. Et je m'aperçois que les gens sont très attentifs à ce que l'anthropologie peut proposer, à la fois, comme je viens de le dire, comme le disait Lévi-Strauss dans cette conférence, par l'effet de recul que la perspective anthropologique permet d'acquérir sur la situation présente, mais aussi par l'effet de, comment dire, la proposition que, comme je le disais tout à l'heure, que la connaissance de façon très différente de vivre la condition humaine permet d'imaginer des futurs très différents du présent que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire, ça nous permet d'échapper à ce que mon collègue et ami François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire l'idée, au fond, que nous sommes englués dans un présent éternel et que le capitalisme, en l'occurrence post-industriel au sein duquel nous vivons, est voué à se perpétuer toujours de la même façon. Donc pour imaginer des futurs différents, la considération des solutions collectives que d'autres collectifs ont imaginées ailleurs dans le monde ou dans le passé est une ressource intellectuelle et politique extrêmement précieuse.
Oui, dans ce retour de l'histoire, c'est un peu ce qu'expliquait Vinciane Després hier, avec l'entrée dans l'historicité des autres espèces, on pourrait dire que l'anthropologie devient une nécessité, elle aussi.
Moi, j'ai toujours pensé que l'anthropologie est une nécessité, en ce sens qu'il me paraissait nécessaire de l'enseigner dans l'enseignement secondaire, par exemple, puisque c'est une science de la diversité, et que les deux grandes sciences de la diversité, que sont l'écologie et l'anthropologie, ne sont pas enseignées dans l'enseignement secondaire, ce qui est plus que dommage, c'est une faute. Prendre conscience du fait qu'il y a d'autres manières de vivre et que la diversité des langues, la diversité des manières de vivre, la diversité des espèces sont des valeurs qu'il faut non seulement respecter, mais aussi promouvoir comme des valeurs normatives, me paraît absolument fondamental. Et en ce sens, l'anthropologie est une ressource, encore une fois, extrêmement précieuse, qui devrait être entretenue. Et je vois comme un signe d'encouragement le fait que, alors qu'il y a un tassement dans les études en sciences sociales, des inscriptions des étudiants, les cours d'anthropologie continuent à être extrêmement suivies et les carrières d'anthropologie continuent à être extrêmement suivies malgré le fait qu'il y a relativement peu de débouchés.
Quand même, malgré cette curiosité renouvelée pour l'anthropologie que moi je constate chez les jeunes générations et dans les médias, etc., en tout cas de cette anthropologie dont vous parlez, malgré cela, on peut observer que c'est une discipline qui est en danger aussi, peut-être, du fait de son pouvoir critique et politique.
Bah, elle est en danger, oui, peut-être. J'en vois un signe dans le fait que l'institution qui aux États-Unis a joué un rôle absolument central dans le développement des études ethnologiques aux États-Unis, qui est le Smithsonian Institution de Washington, vient d'être très gravement amputée de ses prérogatives et menacée de sanctions et soumise à un programme de correction idéologique par la nouvelle administration Trump. Et donc, je pense que le potentiel révolutionnaire de l'anthropologie a été très bien identifié par des gens qui représentent les formes les plus conservatrices et rétrogrades d'idéologie à l'heure actuelle.
Pour finir, nous allons parler ce soir de manière très collective de nos attachements. Et donc, Philippe Descola, vos attachements à vous, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre ce soir dans le pot commun des discussions collectives autour de ça ?
C'est pas facile parce que j'y réfléchissais tout à l'heure lorsque nous préparions cette séance. Et ce à quoi on tient, c'est aussi ce qui nous fait tenir. C'est-à-dire, sont les multiples dépendances qui nous permettent de rester debout et d'avancer. Parmi ceux-là, il y a une multitude de choses. Il y a des habitudes de pensée, il y a des habitudes de travail, il y a des êtres, il y a des formes de relations. Il y a surtout la conscience de ce que nous dépendons pour être ce que nous sommes, d'un très grand nombre de choses. Et donc, nommer ce à quoi nous sommes attachés, est très difficile, parce que ça veut dire d'extraire, au fond, de cet ensemble de choses, quelques éléments qui sont nécessairement un peu arbitraires par rapport à tous ceux qu'on aurait pu choisir autrement. Et donc, parmi les choses qui me font tenir, il y a la conscience de faire partie, par exemple, d'une communauté intellectuelle très ancienne et très vaste aussi, et qui s'incarne comment ? Ben, essentiellement dans des livres. Et donc, l'une des choses qui me fait tenir, c'est l'existence des bibliothèques, par exemple, et le secours ou la consolation que je peux trouver en rencontrant, par la lecture, des manières de faire monde que je trouve séduisantes, auxquelles je peux adhérer, et qui sont proposées, ou qui ont été proposées à toutes les périodes de l'histoire de l'humanité dont on garde des traces et sous toutes les latitudes par des personnes extrêmement diverses. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très important, les bibliothèques. Il y a bien sûr aussi des milieux auxquels on est attaché. Lorsque j'étais sur le terrain en Amazonie, je me suis rendu compte à quel point il y avait certains paysages qui me manquaient, par exemple, parce que la forêt amazonienne, c'est fascinant. Mais c'est aussi quelque chose de très différent de ce à quoi j'avais été habitué. Et pour moi, les paysages qui me manquaient, c'était les paysages méditerranéens, en fond. Des choses qu'on peut facilement définir, hein, ces collines sur lesquelles sont bâtis des villages, avec les plaines cultivées en bas, avec un certain type de végétation. C'est des choses que j'avais appris à apprécier dans mon enfance et qui... dont je me suis aperçu que quand j'en étais privé, elle me manquait. Et ce n'est que quand on est privé de quelque chose qu'on s'aperçoit que cette chose vous manque, évidemment. Donc de ce point de vue-là, l'expérience du terrain est remarquable. Chose qui me manquait beaucoup, c'était la musique aussi, par exemple, sur le terrain. En fait, c'est une constellation, les choses qui nous font tenir debout et auxquelles on tient.
Merci beaucoup Philippe Descola, merci.
Merci à vous.
Me dirigeant vers la magnifique salle de spectacle et ce soir de réunion qui nous accueille au Mas Razal, que je suis tombée sur la maîtresse des lieux, Justine Wojtyniak, de la compagnie Le Retour d'Ulysse. Bonsoir Justine et merci de ton accueil. Comment ça se passe ce soir?
Comment ça se passe ce soir? Je crois qu'il y a une excitation dans l'air, il y a une attente, il y a un désir. Les gens viennent déjà avec un large sourire. Je crois qu'ils sont enchantés par cette soirée, parce qu'on leur propose, parce que à côté de lieux de rencontres et d'échanges et à travers l'art, on avait vraiment le désir de proposer également les ateliers de pensée. Et donc, voilà, cette soirée répond aussi à ces désirs et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur ici, sous les plateaux du Larzac, c'est-à-dire à cet avènement de l'intelligence collective, c'est-à-dire comment on se rencontre, comment on se met en dialogue, comment on se met autour d'une table, comment nos idées émergent, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on partage notre intime de l'endroit qui nous touche et qu'est-ce qu'on peut du coup fabriquer ensemble. Mais c'est vraiment cette idée de fabriquer le monde habitable ensemble.
Et le Mas Razal, alors c'est quoi? C'est aussi un lieu de création, c'est le lieu d'une compagnie, et donc visiblement vous avez l'habitude d'être dans ces moments collectifs créateurs.
Oui, c'est ça. En fait, Mas Razal, c'est vraiment un lieu d'expérimentation, d'utopie. C'est une forme de république de rêve aussi, c'est ce qu'on aime beaucoup dire avec mon compagnon Stéphane Fogart. C'est un lieu de création pour deux compagnies. Donc la compagnie Retour d'Ulysse que je dirige et qui travaille les questions du vivant et d'abolition de la frontière entre la nature et la culture à travers l'art du théâtre. J'aime beaucoup dire ça parce que c'est vraiment notre axe de travail dans la compagnie Retour d'Ulysse. Et la compagnie Le Planche de Salut, qui est plutôt sur la musique improvisée et la poésie. Et tout notre axe de travail tourne autour de ça. Mais il faut dire surtout que c'est un lieu d'expérimentation de faire ensemble avec un groupe de 10 personnes qui sont venues à nous, qui sont des habitants et habitantes de ce territoire et qui décident demain de mettre les mains à l'ouvrage, quoi. C'est-à-dire qui décident de penser avec nous ce lieu, qu'est-ce que c'est en lieu culturel, en milieu rural, comment on peut questionner ensemble, décomplexer les rapports qu'on a à l'art. Je crois que ça, c'est vraiment l'axe fort de notre travail, c'est de ne pas avoir l'art descendant, mais vraiment créer un lieu, un milieu propice à l'échange et à être ensemble.
Merci Justine. Ce soir-là, au Mas Razal, c'est une foule d'habitants et de visiteurs qui sont arrivés pour participer aux discussions. C'est Nastassia Martin qui a alors ouvert la soirée d'échange avec cette introduction précieuse qui nous met au parfum de ses recherches en cours, de cette exploration sur le Larzac et de ce partenariat qui s'ouvre avec le musée de Millau. Enfin, elle nous retrace un peu le paysage de toutes les résonances politiques et urgentes que l'anthropologie, aujourd'hui, questionne.
Bonsoir à toutes et à tous. Quelque chose, quelques êtres, quelques entités au dehors, écoutent. En pays Even, le matin, lorsqu'on se réveille, on a coutume de rallumer le feu et de se raconter... ce qui nous a traversé, ceux qui nous ont traversé la nuit. Un matin, face au feu, Daria, en pays Even, me demande alors de quoi as-tu rêvé cette nuit. Et je dis, c'était horrible, je me suis fait attaquer par une bande de saumons récalcitrants. Et je parle aussi fort que ça. Chut, mais tais-toi. Tais-toi parce qu'ils s'entendent. Juste ça pour dire que peut-être s'il y a une énergie que j'aimerais garder de Daria et de sa famille au Kamtchatka, c'est cette idée de essayons ce soir de mettre dans nos mots toute l'attention qu'il faut pour pouvoir s'adresser à ces êtres du dehors qui, certainement, nous écoutent ce soir. Nous sommes là parce que nous allons tenter ensemble une expérimentation dont nous ne savons pas vraiment où est-ce qu'elle va nous mener. Je vais juste faire un petit retour en arrière pour expliquer d'abord d'où je parle. Et ensuite, comment, avec Katia Fersing, on a imaginé un partenariat possible et un travail en commun. J'ai quitté mon terrain au Kamtchatka il y a l'année avant le Covid, au moment où la guerre en Ukraine a été déclarée. Et il se trouve que j'étais dans l'écriture de la conclusion du livre « À l'Est des rêves » au moment où cette déclaration de guerre est apparue. Et que donc ce terrain a dû se clore pour moi parce que je ne pouvais pas y retourner. Il se trouve que dans la dernière partie de ce livre, qui a coïncidé à la dernière partie du terrain, j'avais ouvert un chantier qui s'appelait et qui s'appelle toujours « Ethno-métaphysique des éléments ». Et ce qui m'intéressait, c'était de questionner les relations que les événements entretenaient avec des milieux dits abiotiques, donc des éléments tels que l'eau, la rivière, le feu, l'air, le vent, les nuages et la terre. Et j'avais envie de m'intéresser à ce qui finalement débordait le concept aujourd'hui largement partagé par nous tous, j'imagine aujourd'hui, de vivant qui a remplacé, entre guillemets, celui de nature. Mon idée, c'était de dire oui, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces entités qui ne sont pas a priori des organismes, qui ne sont pas a priori du vivant, mais qui, avec lesquels néanmoins, de nombreux collectifs ont développé tout un tas de manières de dialoguer depuis très très longtemps. Ce terrain s'étant refermé, j'ai été invitée à venir travailler en Patagonie chilienne sur des questions de transition énergétique. Ce qui m'intéressait, c'était que, c'est un petit peu la manière dont j'ai toujours abordé la question des cosmologies autochtones, non pas parce qu'elles sont seulement intéressantes en soi, mais parce qu'elles sont aussi des réponses toujours très situées et forcément politisées à nos manières modernes de nous relier au monde. Donc cette question de transition énergétique qui en Patagonie est massive en réalité, puisque le projet actuel consiste à produire de l'hydrogène vert sur les estancias jusqu'à présent peuplées de moutons, remplacer ces moutons par des éoliennes pour produire de l'hydrogène avec des usines de désalinisation de l'eau. Et donc voilà, tout cet immense espace qui pour les investisseurs est vraiment cette idée de la terra nullius, de ces barren lands, comme on dit en anglais, prêts à être exploités, puisque vantés, enfin c'est-à-dire vantés, donc plein de ressources, mais vides, très peu anthropisés, mis à part les quelques populations autochtones qui, de fait, ont été largement décimées. Donc voilà, un investissement massif. Sur la question de comment va-t-on décarboner nos économies, verdir la question de l'énergie et donc voilà, une nouvelle fois se réapproprier ces terres dites vides et à la marge. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir aux manières dont des collectifs autochtones qui de fait se situaient pas sur ce territoire-là, puisque comme je viens de le dire, ils avaient été décimés, comment des collectifs autochtones de se donner les moyens collectifs de répondre à cette ressourcification de ces éléments, alors là en l'occurrence le vent et l'eau, en se reliant à ces éléments d'une manière tout à fait non moderne, non naturaliste. Et c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir avec Philippe Descola qui est ici présent. Donc ça, c'est la partie terrain, entre guillemets. C'est vraiment les recherches que je suis en train de mener à l'heure actuelle. Lorsque j'ai découvert cette question de l'hydrogène vert, et aussi le fait que Total Eren était l'une des entreprises majeures qui avait investi en Patagonie, j'ai eu envie de rentrer et de tout simplement écrire masse d'articles pour dénoncer la question, parce qu'en France, personne n'était au courant de ce qui se passait et des investissements de Total Eren et du fait que l'Institut français et l'ambassade de France au Chili recevaient des fonds de Total Eren pour faire de l'acceptabilité sociale, pour faire que ces logiques de transition énergétique soient passées comme une lettre à la poste. Et il se trouve que moi j'avais été invitée par l'Institut français parce que en fait il y avait cette idée de on va montrer que en France on a des chercheurs qui pensent de manière subversive sur des questions d'animisme et de peuples autochtones, etc. Et qu'en fait, l'Institut français était financé par Total Eren. Donc là, ça a été le choc. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer et je vais écrire des articles pour dénoncer la question. Et en fait, à ce moment-là, l'une des responsables scientifiques de l'Institut m'a dit, écoute, si jamais tu arrives à lancer un programme de recherche sur ces questions... Nous, on t'introduit, c'est-à-dire on t'infiltre littéralement comme une sorte d'espionne, on t'infiltre au sein des entreprises, des fonds d'investissement, du CEA, enfin tous les acteurs institutionnels et entrepreneuriaux qui sont sur ce territoire à l'heure actuelle et avec lesquels c'est difficile de parler si on arrive avec une casquette un petit peu militante. En l'occurrence, voilà, si tu arrives à financer un projet, c'est-à-dire on te donnera les clés de ces endroits-là. Donc j'ai essayé, parce qu'il y avait cette chaire, donc c'est une chaire de professeur junior qui s'intitule « Habitabilité de la Terre et transition juste ». Ça collait quand même assez fortement aux problématiques que je me proposais d'étudier. Donc je me suis dit, il n'y a absolument aucune chance que je l'aie, parce que cette chaire était ouverte absolument à toutes les sciences sociales, donc ça aurait très bien pu être un économiste qui aurait été recruté et qui aurait vendu des modèles décarbonisation. A priori, ce n'était pas évident que ce soit moi. Il se trouve que je l'ai eu. Donc j'ai lancé cette recherche et il y a eu toute la première année de terrain qui a été vraiment d'aller parler aux investisseurs, parler aux entreprises, etc. C'était absolument horrible. J'ai fait des cauchemars d'avoir des bombes cachées dans les voitures où je rentrais, etc. Parce qu'il y a vraiment une violence très très grande lorsqu'on se relie à ces personnes-là, malgré le fait qu'elles disent qu'elles œuvrent vers plus d'écologie et de justice sociale. Donc ça, c'est la partie terrain. La partie, animation de la recherche, c'était que, en fait, je me suis proposé de réfléchir sur les termes même, enfin, c'est les concepts qui composaient l'intitulé de la chaire, donc habitabilité de la Terre et transition juste, et de se dire, finalement, on ne peut pas prendre ces termes comme ça, bouche ouverte, parce que c'est les concepts qu'on a prédéfinis pour nous, parce que là, en l'occurrence, c'est l'INESHS, c'est-à-dire l'Institut des sciences humaines et sociales, qui ont produit cet intitulé. Mais cet intitulé, il ne vient même pas des sciences humaines et sociales. Le concept d'habitabilité, alors ça, encore une fois, c'est une question complexe et pas si simple, mais pour le dire vite, c'est quand même un concept qui vient très largement, en tout cas qui a été vraiment travaillé par les sciences du système Terre, dans la même logique qu'Anthropocène, limite planétaire, etc. Et les sciences humaines héritent de ces concepts et sont censées les travailler depuis leur focale disciplinaire, souvent en ne refaisant pas le travail de réflexivité, c'est-à-dire de venir se poser la question de est-ce qu'ils sont encore pertinents pour nous, est-ce qu'ils sont suffisamment ouverts, est-ce qu'on va pouvoir faire autre chose que de l'aménagement ou de la gestion environnementale lorsqu'on les utilise et lorsqu'on les pense. Donc, dans ce cadre-là, j'ai organisé depuis 2 ans des séminaires à la Sorbonne, à Paris. Donc, la première année, c'était sur la question climat et habitabilité. Le dispositif, c'était que ce soit pas un chercheur d'une seule discipline qui vienne faire une conférence et présenter ses objets de recherche, par exemple, sur des questions climatiques et s'en aille, mais qu'en fait, il y ait toujours un point de friction, c'est-à-dire que ce soit 2 chercheurs de 2 disciplines différentes qui viennent présenter, par exemple, sur la question de comment penser ou repenser le climat, de mettre, par exemple, une personne du GIEC en dialogue avec un anthropologue ou un géographe, un historien, etc. Et que, en fait, de cette rencontre se produisent des points de fiction où on voit bien que, en fait, on n'entend pas exactement la même chose lorsqu'on dit climat, lorsqu'on dit habitabilité, etc. Comment on réhistoricise ces concepts? Comment on ouvre des brèches à l'intérieur de ces mots, de ces concepts pour se dire peut-être qu'il faut en changer, ou en tout cas, peut-être qu'il faut vraiment ouvrir des brèches tellement assez grandes pour qu'ils puissent prendre plus de variables, d'éléments en compte. Et la deuxième année, qui était cette année, on a travaillé sur la question de la transition énergétique. Et l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, bah, vous le savez tous, on est dans des logiques largement gestionnaires et technosolutionnistes pour répondre aux multiples crises écologiques et climatiques face auxquelles on est. Donc l'idée, c'était de dire, comment on fait pour saisir ce qu'il se passe réellement sur le terrain avec ces logiques de transition énergétique? C'est description dense de projets de transition énergétique. Pas seulement des perspectives critiques sur est-ce que la transition énergétique existe ou n'existe pas. C'était par exemple tout le propos de Jean-Baptiste Pressos qui est venu parler il y a quelques mois. Mais aussi, qu'est-ce que concrètement il se passe dans ces parcs éoliens, dans ces parcs solaires, refaire de l'ethnographie à ces endroits-là qui, généralement, ne sont pas des lieux où les anthropologues vont faire de l'ethnographie. Et le troisième point, et c'est un petit peu pour ça qu'on est là ce soir, donc la troisième année, on la voulait dédier à la question de existe-t-il, y a-t-il, et là, c'est vraiment là où l'anthropologie revient, parce que en tant qu'anthropologue, évidemment, nous, on a la perspective de... On sait bien que les modes de relation qui sont normatifs, entre guillemets, quand on dit changement climatique, GIEC, etc., ne sont pas ceux auxquels se relient les collectifs autochtones avec lesquels nous, on parle, parce que justement, il y a le problème de la gentilité, etc., de qu'est-ce que c'est que se relier à une puissance élémentaire. C'est quelque chose qui n'est absolument pas pensé par le GIEC, par exemple. Donc, l'idée, c'était de se dire, OK, réponse alternative aux crises écosystémiques. Quelles sont ces réponses alternatives hors du technosolutionnisme et comment on va les penser? Et là, en fait, on arrive à un problème assez massif pour moi et pour nous. On se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut qu'on se donne les moyens de sortir des cénacles universitaires, académiques, au sein desquels ces questions sont formulées. Même si on va convoquer des collectifs autochtones et traduire leurs mots ou les inviter pour qu'ils puissent formuler leurs questions, c'est quand même nous, depuis nos champs universitaires, qui formulons ces questions. Donc l'idée, c'était de se dire, et c'est vraiment une idée qui a germé avec Katia Affersing, avec qui on travaille finalement depuis plusieurs années, que ce qui serait intéressant, ça serait de se donner les moyens de créer un espace de pensée où des chercheurs qui travaillent sur des problématiques depuis X années puissent se décaler des endroits usuels depuis lesquels ils parlent pour venir dialoguer avec des personnes qui sont traversées par exactement ces mêmes problématiques de comment on habite aujourd'hui un territoire, avec quels êtres et entités on est attaché, de quels êtres et entités on dépend, qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour nous ici, et que ce qu'est-ce qui compte, parce que notre problématique majeure, c'est que ça vient toujours d'en haut. On a des plans de gestion environnementale, on a des aménageurs, et on a des intellectuels qui vous disent ce qui est bon ou pas bon de penser. Donc l'idée, c'est de dire, bon ben, revenons, remettons-nous sur un territoire situé, essayons de faire, pas de la, c'est-à-dire métaphoriquement de la co-construction des savoirs, c'est vrai que c'est un concept très à la mode. L'idée, c'est vraiment de se dire, on va essayer de réfléchir ensemble à tirer les problématiques de l'habitabilité. C'est non seulement depuis ici, mais évidemment tous les gens qui sont ici n'habitent pas forcément sur les territoires, mais en fait c'est depuis vous, c'est-à-dire c'est depuis une zone de pratique, une zone d'expérience, une zone d'intimité. Évidemment, enfin, quand on dit ce à quoi on dépend, bon, bah, c'est assez évident. Oui, bah, il nous faut de l'eau potable à boire, de l'air respirable, une terre cultivable, des animaux en bonne santé, un toit pour s'abriter, de quoi se chauffer. Bon, ça, évidemment, on est tous d'accord. L'idée, c'est quand même d'aller un petit peu plus loin. On va placer l'attention sur les relations qui, pour vous, sont indispensables, maintiennent votre existence. En fait, qu'est-ce qui vous maintient en vie ? Ça peut être des choses vraiment très collées aux pratiques, à la terre, etc. Mais ça peut aussi être de l'ordre de l'invisible. C'est ouvert.
Bibliothèque.
La marche.
La paix.
La liberté.
La fête.
L'errance.
Le calme de la nature.
J'ai besoin du vide du cos, plein de la pulsatille et la tulipe australe, de la roche et du vent. Le chant du monde,
ou la vie qui grow.
Les rythmes et la nécessité d'harmonie qu'ils impliquent.
Mes parents et mes grands-parents.
Prendre soin du sauvage pour vivre enfin l'essentiel.
M'émerveiller et la steppe du Larzac.
Toutes les formes d'amour.
Je tiens à tout ce qui ensemble contribue à ce que je puisse respirer, inspirer et expirer est ce qui me tient.
Ma famille.
Mon frère.
Être avec ceux que j'aime.
Le chant des oiseaux.
La musique est mieux.
Un grand merci à Philippe Descola, Nastassia Martin, Katia Fersing, Justine Wojtyniak pour leur participation à cette émission. Merci donc au Mumi, au Masrazal, au Bistrot des Ethnologues. Et enfin, merci à Gaëla Loiseau, à Stefano Fogger pour l'accueil, à Marc Callas pour la prise de son. Pour la musique, c'était Bedmakers. Cette émission sera rediffusée vendredi prochain, le 11 avril, à 9h30. Et vous pourrez aussi l'écouter, bien sûr, à votre guise, sur la page podcast du site de radioescapade.org ou sur l'audioblog Ethnovibro hébergé par Arte Radio. En attendant le mois prochain et notre prochaine émission, le deuxième mardi du mois à 17h, je vous donne rendez-vous aussi avec le Bistrot des Ethnologues qui aura lieu le mardi 29 avril à la librairie La Cavale à Montpellier. C'est dans le quartier des Beaux-Arts. Nous vous attendons à 19h30 pour une séance avec le chercheur Fabien Provost autour de son ouvrage « Les mots de la morgue, la médecine légale en Inde du Nord ». D'ici là, je vous souhaite de bonnes vibrettes à toutes et à tous. Ciao.
Mon esprit et l'esprit critique en général.
La rencontre. Les lieux.
Le feu.
La pluie.
La fragilité.
La possibilité de s'enfuir.
silhouette en contre-jour des arbres l'hiver et le passage des grues dans le ciel.
La rencontre qui match plus sur le Larzac qu'ailleurs.
Les langues et l'écoute de l'autre.
Objection de conscience.
Aux amitiés et à ce qu'elles déplacent.
Être relié, nous vivants, vivantes, et accompagner celui d'entre nous qui meurt.
Le lien dans les luttes sociales, anticolonialistes et féministes.
À la santé et au bien-être de la rivière que nous côtoyons.
La croyance en nos métamorphoses.
Marcher en silence dans les forêts et sur le mont Lozère.
Je tiens au fadarelle.